Voilà, nous continuons notre série sur l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous allons parler du message de l'évangile. C'est quoi le message de l'évangile? Il faut que ça soit clair dans l'esprit de chacun, comme nous sommes amenés à parler de l'évangile. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Et nous allons utiliser quatre passages bibliques de l'évangile pour parler de l'évangile. C'est Jésus lui-même qui présente les choses. Nous lisons premièrement dans Luc au chapitre 19. J'ai l'habitude d'utiliser ce passage, Luc 19, 1 à 10. Donc ces passages vont nous renseigner sur le contenu du message de la bonne nouvelle. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà un passage très important pour comprendre le message de l'évangile. J'ai l'habitude de dire que les concepts, les notions concernant Dieu, concernant Jésus, concernant l'évangile, c'est pour bien les avoir dans le cœur, il faut toujours les associer à des passages bibliques. Parce qu'on peut entendre des prédications, on peut écouter des définitions qui peuvent se mélanger avec notre intelligence et produire quelque chose qui n'est pas biblique. Donc il faut qu'on ait toujours le réflexe, lorsqu'on parle d'une notion biblique, lier ça à un passage biblique. Donc on parle de l'évangile, donc on ne va pas sortir une définition, faire un discours sans qu'on lie les choses au passage biblique. Donc là, Jésus est clair, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc ça nous aide à comprendre le message de l'évangile, comment il se présente. Dieu vient chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On a la démonstration physique de la chose lorsque Jésus dit à Zachée, « Zachée, descends. » Donc ce n'est pas Zachée qui vient vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui dit, Zachée, lui, il vient regarder, mais c'est le Seigneur qui lui parle, qui lui dit, « Zachée, descends, je veux aller manger chez toi aujourd'hui. » Donc, nous sommes appelés à évangéliser. Un élément très important, c'est de comprendre que Dieu lui-même veut sauver les gens. Il ne faut pas, après, croire que nous, on peut faire mieux que Dieu. Dieu lui-même veut sauver. C'est lui qui appelle Zachée. Ce n'est pas Zachée qui, parce qu'il était juste, a voulu du Seigneur. Non, le Seigneur, c'est lui qui dit, je veux aller manger chez toi. Et on voit, quand on lit le verset 7, il est allé loger chez un homme pécheur. Ces gens-là ont parlé physiquement, mais Dieu s'est servi d'eux pour nous faire comprendre des leçons spirituelles. En réalité, l'évangile, c'est Dieu qui vient loger dans le corps d'un homme, c'est vrai, pécheur. C'est ça l'évangile. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, vient habiter dans un homme pécheur, mais bien sûr purifié par le sang de Jésus. Mais ça, c'est autre chose. Mais la leçon qu'on retient de ce passage, c'est quoi? C'est que Dieu vient chercher et sauver. Sauver qui? Les mauvais. Parce qu'un des problèmes qu'ont eu les pharisiens, c'est qu'ils n'ont pas compris que Dieu vienne chercher un mauvais. Donc pour eux, Dieu vient pour les bons. Donc ça peut être une grosse difficulté pour certaines personnes par rapport aux efforts qu'on peut mettre pour sauver les mauvais. Il y en a qui peuvent dire, mais oui, mais tant d'efforts pour une personne. Mais c'est ça le travail de Dieu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc les pécheurs sont dans le message de l'évangile. Donc les gens qui sont perdus, l'évangile c'est pour eux. Ça c'est ce que nous apprend ce passage. Nous prenons Luc 7, nous restons toujours dans Luc. Luc 7. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc ce passage nous donne d'autres éléments sur l'évangile. Donc on a vu avec Zachée, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc Dieu, à travers le message de l'évangile, il vient chercher et sauver ce qui était perdu. Donc c'est lui qui cherche. C'est lui qui cherche. Donc, il ne faut pas croire que quelqu'un a trouvé Dieu par lui-même. Non, c'est Dieu qui nous a cherchés. C'est Dieu qui cherche pour sauver. Et dans ce passage, il y a cette femme qui était pécheresse, probablement prostituée, qui vient voir Jésus, apprenant que Jésus était chez Simon le pharisien. Et finalement, cette femme vient pleurer aux pieds de Jésus. Elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Et les gens sont étonnés une fois de plus. On a vu l'étonnement quand Jésus est parti chez Zachée. Et là, on voit encore l'étonnement quand cette femme pécheresse vient laver les pieds de Jésus et que Jésus accepte. Donc, n'oublions pas les détails que nous sommes en train de citer. Il y a l'étonnement. Donc, les gens n'accepteront pas facilement l'évangile, même ceux qui se prétendent religieux. Donc, ils finiront, même ceux qui se prétendent croyants, aimant Dieu, ils finiront par s'habituer à une vie où tout est propre. Quand vraiment on se lance dans le salut des âmes, les gens ne comprendront pas. Parce que il y a comme une logique, il faut aller vers les bons. Mais non, mais Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est aussi un encouragement pour tous ceux qui se sentent perdus de savoir que c'est justement eux que le Seigneur est venu chercher pour sauver. Et cette femme, quand elle fait ça, les gens sont choqués et Jésus donne une parabole où il explique qu'il y avait un créancier, donc quelqu'un à qui deux personnes devaient de l'argent. Il y a une personne qui devait 500 deniers, donc des milliers d'euros à peu près, et une autre 50. Donc, 10 fois moins. Et le verset 42, c'est le renseignement que nous donne ce passage-là, le plus important. C'est le verset 42. Il n'avait pas de quoi payer les deux. Comme il n'avait pas de quoi payer. Il, là, c'est au pluriel. Donc, les deux débiteurs n'avaient pas de quoi payer. Au cas où on aurait cru tel que sur terre, il y a un groupe qu'on appelle les mauvais, un groupe qu'on appelle les bons, ce passage nous redresse. Ce passage nous montre que tout le monde est débiteur. Tout le monde est mauvais et est incapable de payer. Parce que ça, c'est un élément encore très important. Les deux étaient débiteurs, mais en plus, les deux étaient incapables de payer. Donc, l'évangile est présenté pour les gens qui sont incapables de payer. Donc, quand on présente l'évangile, et que quelque part on a sorti cette présentation d'un langage qui vise à faire comprendre à la personne que pour être accepté par Dieu, il faut qu'il commence à faire ceci, commence à faire cela. Là, nous sommes en train de... Ce n'est plus le message de l'évangile. Le message de l'évangile s'adresse à des débiteurs incapables de payer, donc à des gens incapables de satisfaire Dieu. Donc, lorsque maintenant on commence à leur poser des conditions pour être sauvés, des conditions, des actions, donc là, le Seigneur nous donne, à la fin, il nous donne la condition pour être sauvés. Il a dit, ta foi t'a sauvé, c'est la foi. Lorsqu'en dehors de la foi, on commence à leur poser des conditions légalistes, donc des actions à faire, des œuvres à faire, que ce soit directement ou indirectement, quelque part, on n'est plus dans l'évangile. On n'est plus dans le message de l'évangile. Donc, le verset 42 est clair. Comme il n'avait pas de quoi payer. Donc, les deux étaient incapables de payer. Que ce soit ceux qui sont des grands bandits, que ce soit ceux qui sont des petits voleurs, les deux sont incapables de payer leur salut, de payer leur dette de péché. Et ce passage nous renseigne sur un élément aussi très important, c'est que nos péchés, ce sont les péchés qui condamnent les gens. Non, parce que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Il dit à cette femme-là, tes péchés sont pardonnés. Donc c'est le péché qui est un grand problème, le grand problème concernant la relation entre l'homme et Dieu. Et Jésus est clair là-dessus. Donc c'est pourquoi Tout prédicateur d'évangile, tout celui qui annonce l'évangile, doit être au clair là-dessus, sur le fait que c'est le péché qui est le problème. Donc on ne peut pas changer d'évangile en commençant à dire non, Dieu veut nous bénir, Dieu veut faire du bien à l'homme. Non, Dieu veut nous sauver de nos péchés. Il faut que ça soit clair. Donc maintenant, on n'est pas obligé d'adopter un langage systématique en disant « Dieu veut nous sauver de nos péchés, c'est le Seigneur qui va nous conduire. » Mais dans notre message, il faut que ça soit clair que le vrai problème, c'est le péché de l'homme. Donc on ne peut pas apporter un message qui est différent de cela, notamment en disant que Dieu veut bénir. Je me souviens dans les années 90, donc il y a eu une mode qui était sortie comme quoi l'histoire de dire que Dieu est venu sauver les humains de leurs péchés, ce n'est pas une bonne façon d'évangéliser. Il faut dire aux gens qu'ils présentent leurs besoins, nous allons prier pour eux. Et quand ils verront que Dieu a agi, ils viendront se convertir. Mais se convertir à quoi? Puisque ils se sentent pas en faute. Se convertir à quoi? Puisque on ne leur a rien reproché. Donc ils viendront juste s'associer à ce Dieu-là pour hériter de ses bénédictions. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas le message de l'évangile. Malgré le fait que Jésus était compatissant, il a été clair. Il était amour, mais il a été clair. Le problème, c'est les péchés. D'ailleurs, c'est pour comprendre que le problème, c'est les péchés. Même les humains sont choqués par les péchés, parce que les humains étaient choqués de voir cette femme acceptée par Jésus. Donc, même si les péchés choquent les humains, à combien plus forte raison ça va choquer Dieu lui-même? Donc, c'est clair. Puisque nous-mêmes, nous, les humains, nous sommes choqués. Mais le problème avec les humains, c'est que les humains ont fait des gradations de péchés. Donc, ils ont fait une échelle, comme on dit, l'échelle de Richter, de tremblement de terre. Donc, les humains aussi ont fait des échelles de péchés. Et donc, à cause de ça, ils sont choqués par certains péchés qu'ils ont mis très forts dans l'échelle. Et ils sont moins choqués par d'autres qu'ils ont mis faibles dans leur échelle. Mais ce passage nous apprend que avec Dieu, c'est pareil. Donc que ce soit 50 deniers, que ce soit 500 deniers, ben, tu es débiteur et tu n'as pas de quoi payer. Donc personne ne peut payer par rapport à ses péchés. Donc qu'on ne dise pas aux gens, mais si tu fais ceci, tu donnes tes offrandes, Dieu va... Non, il n'y a pas... On ne paye pas avec l'argent, ce n'est que le sang de Jésus qui purifie des péchés lorsque nous avons foi en lui. Donc ce passage nous renseigne aussi sur le message de l'évangile. Et Jésus d'ailleurs nous donne une conséquence, c'est que ceux qui ne sont pas réellement sauvés, c'est-à-dire ceux qui croient qu'ils étaient bons et que le Seigneur a juste ajouté quelque chose un peu, c'est des gens qui n'ont pas la joie du Seigneur. C'est des gens qui ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas subi un grand, ils n'ont pas vécu, plutôt expérimenté un grand pardon. C'est des gens qui se croyaient plus ou moins bons et ils pensent que en acceptant le Seigneur, c'est juste qu'ils ont, voilà, ils se sont associés à ce que eux-mêmes trouvaient déjà, ce que eux-mêmes vivaient déjà en quelque sorte. C'est des gens qui ne sont pas très heureux parce que bon. Le salut n'a pas été grand pour eux. Mais ce sont les gens qui se sentent les plus malheureux, les grands débiteurs, qui sont très heureux. Et ils sont simples comme des enfants. D'ailleurs, on a vu ça avec cette femme. Simple comme un enfant. Elle vient, elle prend le risque, bien aimé. Normalement, cette femme n'avait pas le droit d'entrer chez ce pharisien-là. Et je crois que si on ne l'a pas mis dehors, c'est parce que Jésus était là. Normalement, on l'aurait tapé. On aurait mis la main sur elle, les mains sur elle, parce qu'elle est entrée dans un lieu saint, l'habitation d'un pharisien. Mais les gens n'ont rien fait parce que le Seigneur lui-même était là. C'est pourquoi il faut très tôt apprendre aux gens qui se sentent perdus que ce n'est pas les hommes. Ils ne doivent pas craindre les hommes. Si Dieu veut les accepter, c'est ça le plus important. Il ne faut pas dire « on m'a regardé de telle manière ». Non, Ce n'est pas eux qui vont te sauver, c'est Dieu qui sauve. Et là, le Seigneur accepte cette femme. Et cette femme est comme un enfant dans une joie extraordinaire. C'est ça le vrai salut. Le vrai salut va produire une joie extraordinaire. Et Jésus explique ça. C'est parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés qu'elle est contente. Elle est heureuse, elle est comme un enfant, elle vient pleurer aux pieds de Jésus, vraiment comme un enfant, tranquillement. Et le pharisien, est-ce qu'il était mauvais? Simon, il n'était pas mauvais. D'ailleurs, il a invité Jésus, il n'était pas mauvais. Mais il fait partie des gens qui croient que quelque part, ils étaient déjà bons avant. Et sa joie, c'est pourquoi Jésus dit, mais ta joie est faible, parce que tu n'as pas beaucoup reçu, tu penses n'avoir pas beaucoup reçu de Dieu. C'est pourquoi ta joie est faible. Mais cette femme, c'est que je suis son salut. Sans moi, elle est perdue. Cette femme, c'est que toute l'humanité l'a rejetée, mais moi, je l'accepte. Imagine sa joie. Et elle sait bien que c'est moi qui tranche. C'est moi le véritable juge. Donc, elle sait que tout le monde ne l'aime pas, sauf moi. Mais en plus, c'est moi qui suis Dieu. En plus, c'est moi qui décide. En plus, c'est moi qui suis juge. Donc c'est normal que sa joie soit si grande. Le pharisien n'était pas mauvais, mais il avait une mauvaise conception du salut. C'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons éviter la mauvaise conception du salut qui a tendance à nous faire croire que Dieu sauve les gens qui sont plus ou moins déjà bons. Voilà. Donc, et c'est faux, Dieu est venu pour les perdus. C'est très très important de comprendre ça. Nous avons, pour exemple, c'est que le film que nous regardons sur la conversion des musulmans par des rêves, nous voyons Ali, qui est à la Mecque. C'est là que Jésus le sauve. Donc, il est à la Mecque, c'est là que Jésus lui apparaît, et Jésus le sauve. Donc, c'est un endroit, l'endroit le plus inattendu. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, bien-aimé. Oui, donc c'est cela. Cette femme est encore un témoignage de l'amour de Dieu, du véritable évangile. Oui. La dette de cette femme, c'était son péché. C'était son péché. Le pharisien aussi avait le péché.
Mais pourquoi il avait condamné ou c'est juste qu'il voyait qu'il soyait beaucoup de péchés plus que...
Non, le pharisien considérait que lui, il n'a que des petits péchés et la femme a des gros péchés.
Ah d'accord, il s'étonnait voilà. En fait pour lui pardonner de Dieu, pardon de Dieu.
Il s'étonnait que voilà, que Dieu accepte la femme, Jésus accepte la femme.
D'accord.
Voilà. Donc c'est ça le faux évangile. Le pharisien n'était pas un homme mauvais, mais il était contaminé par le raisonnement humain qui nous fait croire que Dieu est là pour juste pour les gens qui sont plus ou moins bons. Et quand dans nos familles, nous avons des gens qui sont très mauvais, qui ne veulent même pas nous écouter, et on les oublie carrément dans la prière. On va s'intéresser à des gens qui acceptent nos invitations, à des gens qui, lorsque nous parlons, ils écoutent quand même, ils ne s'opposent pas, ils ne nous font pas de coups bas. Et tous ceux qui sont vraiment dans l'opposition, on ne veut même plus penser à ces personnes-là. Mais on est sorti de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est pour les perdus. Et une fois de plus, comme nous l'avions dit dans le cas de Zachée, les gens sont choqués de voir que finalement, c'est ça le message de l'évangile. Donc, comprenons que c'est quand même fort dans la nature humaine de penser que Dieu n'est pas là pour les mauvais. C'est fort, parce qu'à chaque fois, les gens sont choqués de voir l'amour de Dieu manifesté envers un pécheur. Ce n'est pas fini là, nous allons prendre encore un autre exemple, donc l'exemple qui va clôturer tout. C'est le passage qui résume l'évangile à 100%, c'est le passage de Luc 15, mais nous finirons avec ça. Nous apprenons de ce passage que tout le monde est débiteur et incapable de payer sa dette. Donc ce qui devrait avoir comme conséquence la louange et l'adoration pour tout chrétien sans effort. Parce que chaque jour, il va se sentir sauvé, quoi. C'est chaque jour, il doit célébrer son salut sans effort, s'il a vraiment le raisonnement de la dame. Mais s'il a le raisonnement du pharisien, vous allez le voir prier avec effort, adorer avec effort, louer avec effort, servir Dieu avec effort, parce qu'il n'est pas dans l'état de la dame. Il est dans l'état de Simon. Il va faire certains bons actes, comme inviter Jésus. Voilà, mais on mange et puis voilà. Mais ça ne va pas aller plus loin. Donc la personne peut se déplacer, venir dans une réunion de prière, mais son cœur reste froid parce que son salut est faible. Alors que quand une personne est vraiment dans le vrai salut, lui, cette personne-là est tout le temps dans la joie. C'est vrai qu'on est des humains, on peut avoir des difficultés, mais à la base, une telle personne, chaque jour, célèbre son salut. Chaque jour, parce que vraiment, il sait d'où il vient. C'est le gros débiteur. Mais les petits débiteurs ont des problèmes pour célébrer leur salut. Voilà, c'est ce que Jésus nous présente. Et puis, un troisième élément qu'on apprend, c'est qu'on est sauvé par la foi. Donc, c'est par la foi qu'on est sauvé. Ta foi t'a sauvé. Voilà, c'est très important. L'Évangile présente le salut par la foi. Quatrième élément, le problème entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Ce passage aussi nous montre cela clairement. C'est le péché. Donc tout le monde est pécheur. Donc on peut utiliser les épîtres pour expliquer tout ce qu'on est en train d'expliquer, mais je voulais rester vraiment sur les exemples clairs et nets, concrets de l'Évangile, afin qu'on dise pas c'est des théories de Paul. C'est pas des théories de Paul. C'est vraiment l'Évangile qui est présenté par Jésus lui-même ainsi. Et nous savons que toute la parole est la parole de Dieu, mais il y en a qui vont toujours vouloir rabaisser ce qui vient de Paul, mais tout ça c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prenons que les passages de l'Évangile, Jésus lui-même présentant son Évangile. Nous prenons Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, au verset 39.
Pasteur, il y a une question.
Oui.
Oui, je voulais poser la question, dans le cadre, ou même dans les évangiles, on voit des conversions qui sont différentes. On voit la conversion de Zachée, où lui, il donne tout au Seigneur, enfin, il est vraiment un changement radical. On va voir, par exemple, le jeune homme riche que tu as pris même dimanche, la conversion est moins flagrante. Maintenant, est-ce que c'est...
Celle de qui est moins flagrante?
Jeune homme riche.
Ah oui, oui, mais voilà. Il n'y a pas la conversion là, en ce moment-là.
Oui, mais malgré tout, bon... En fait, ma question, c'est la différence, parce que même aujourd'hui, de nos jours, on va voir quelqu'un qui va se convertir, qui va être radical, et quelqu'un qui va prendre plus de temps. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais est-ce que c'est le fait de ne pas réaliser la gravité du péché?
Oui, donc c'est l'histoire des débiteurs. Donc les gens qui sont radicaux, comme cette femme, il faut savoir que cette femme a pris le risque qu'on la tue même. Hein, parce qu'elle, qui est connue dans le milieu comme pécheresse, entrait chez le pharisien. Est-ce que vous vous souvenez dans Luc 7, le centenier romain a dit à Jésus, « Seigneur, ne prends pas la peine de venir chez moi. C'est pourquoi moi-même, je me suis retenu de venir te voir. » Parce que c'était un romain. Le juif saint, le juif pur, n'avait pas à côtoyer les non-juifs et vivre comme... voilà, aller dans la maison d'un non-juif, tout ça. C'était impur en quelque sorte, sans être de péché clair, mais c'était mal vu. C'est pourquoi le centenier romain dit, c'est pourquoi le Seigneur ne prend pas la peine de venir jusqu'à chez moi. C'est pourquoi d'ailleurs moi-même je ne suis pas venu jusqu'à chez toi, parce que je me sens indigne. Et imaginez maintenant que cette dame, elle était une femme de péché connue comme telle. Prendre le risque d'entrer chez le pharisien, ça veut dire qu'elle était dépassée par le poids de ses péchés. Donc il n'y avait pas d'autre solution que de quitte à mourir, mais il fallait rencontrer le sauveur pour qu'elle soit sauvée. Donc ça, ça montre voilà, que quelqu'un vient d'un gros poids de péché. Donc si on expérimente ce que tu viens de dire, c'est lié au fait que beaucoup se croient sauvés de peu. Donc c'est l'exemple des deux débiteurs. Ils se croient sauvés de peu de choses. Ils se croient plus ou moins déjà bons. Et que finalement, ils entrent dans un parti politique qu'on appelle christianisme. Alors, c'est pourquoi leur joie n'est pas intense, leur changement n'est pas radical. Le jour où quelqu'un prend conscience de ce qui s'est passé réellement, son changement est radical.
Mais malgré tout, tu parles quand même de conversion, puisqu'on dit quand même que la conversion, c'est un changement radical. Donc les personnes qui ne changent pas forcément radicalement, qui changent peut-être sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc ce n'est pas une réelle conversion à la base.
On parle de conversion parce qu'ils ont confessé, nous sommes des humains. Ces gens-là confessent le Seigneur. Ils disent que Jésus est leur Seigneur. Et en tant qu'humains, on ne peut pas se mettre dans leur cœur pour dire qu'ils ne sont pas convertis. Mais cependant, la parabole des débiteurs explique ça. Voilà. Je pense qu'on avait traité ce problème-là quand on a parlé de Matthieu 13. On a traité ce problème. On a dit que la parabole des semeurs, donc on a dit que c'est des états qui sont pas sous le regard humain. Ce ne sont pas des états qui sont clairs à 100%. Dire que quelqu'un n'est pas converti, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, voilà, le Seigneur sauve aussi par grâce. Il y a tout ça. On ne peut pas, parce qu'on a vu quelqu'un vraiment se comporter très bien, dire à 100% qu'il est converti, c'est dans la durée. Donc, et puis, on se met à la place des humains, on se dit, bon, on est des humains. Nous, ce qu'on peut juger, c'est les fruits. Voilà. Maintenant, dire que quelqu'un... Voilà, on avait aussi un problème entre convertis parce que quelqu'un peut croire au Seigneur, être sauvé, mais est-ce que, comme le voleur à la croix, est-ce qu'on a vu après son comportement? Non, on n'a pas eu le temps de voir. Alors, nous ne voulons pas trop nous avancer pour décider qui est converti, qui n'est pas converti. On se limite à dire ce que le Seigneur lui-même, il donne la parabole des deux débiteurs. Et les deux débiteurs sont pardonnés quand même, quoi, parce que leurs dettes sont remises. Hein. Voilà. Donc c'est... Mais il y a un qui manque de joie, parce que voilà, c'était une petite dette. Donc c'est ce qui se passe. Donc c'est pourquoi on voit des conversions différentes, parce que beaucoup sont sauvés que de petits péchés. Ils le pensent, eux, mais en réalité, c'est faux, parce que tous les péchés condamnent. Mais en réalité, nous devrions tous être dans l'état de la dame. Et malheureusement, il y en a parce qu'ils payent bien leurs impôts, ils ne volent pas, ils payent le ticket dans le métro, ils roulent à 120 lorsque c'est 130, ils roulent à 45 lorsque c'est 50. Donc, de telles personnes ont du mal à voir l'impact de l'évangile dans leur vie. Le jour où Jésus entre dans leur vie, ils se disent, mais c'est ce que j'étais déjà avant. Mais non, tu étais perdu parce que tu avais le péché en toi. Oui. Donc c'est ça le problème.
Mais tu viens de le dire, c'est un mensonge. Donc, c'est pas vraiment un salut si notre salut est basé sur un mensonge, dans le sens, je ne suis pas si pire que ça et je fais des bonnes choses, tout ça. C'est pas un salut basé sur le fait qu'on reconnaît la grandeur de qu'est-ce que Dieu a fait parce qu'on était réellement perdu. On est basé sur un fondement qui est faux.
Non, ces gens-là reconnaissent aussi qu'ils sont perdus, mais que de peu. C'est ça, la différence.
Ça fait que qu'est-ce que Jésus a fait est peu.
Non, c'est eux qui ont été sauvés de peu. Ils ne disent pas que c'est ce que le Seigneur a fait de peu. Donc, ils estiment qu'ils n'étaient pas si sales que ça. Voilà. Mais ils estiment quand même qu'ils avaient besoin de ce salut-là. Le monsieur, il invite quand même Jésus, Simon. Parce qu'il a, il a besoin de ce salut-là. Voilà, puisqu'on va, on va clôturer avec Luc 15 et Jean 3. Voilà, dans Jean 3, on voit quand même Nicodème avoir besoin du salut. Le jeune homme riche, il a aussi quand même besoin du salut. Même s'il se croit déjà plus ou moins bon, mais il sent en lui que ce n'est pas suffisant. Il lui faut un salut certain. Voilà, c'est ça. Donc ces gens-là, ils se croient bons, mais ils sentent qu'ils n'ont pas le salut quand même.
Mais c'est difficile quand on est avec des chrétiens comme ça. Bon, en tout cas, parce que, bon, moi c'était feu, tout flamme, là. Mais c'est difficile d'être avec des gens qui sont, bon, tu sais, ça va comme ça. Parce que la motivation pour se donner à Dieu vient du fait de qu'est-ce qu'on réalise de ce qu'il nous a fait.
Oui, c'est difficile, oui, c'est difficile. Voilà, bon, c'est difficile. Mais en même temps, ça a été difficile pour nous autrefois parce qu'on voulait forcer les gens. Autrefois, tel qu'on était dans nos églises, on voulait forcer tout le monde à faire les choses, à danser, à prier, à chanter. Moi, du moment que j'ai compris ces histoires de débiteurs, je n'ai pas le temps de forcer quelqu'un. Donc, si quelqu'un veut jouer au froid, c'est son problème. Nous, on joue au chaud. Voilà. On avance. C'est tout. Donc, je suis convaincu que c'est l'esprit qui touche. Pourquoi moi, un être humain, je veux forcer quelqu'un à prier, à chanter? Non, c'est l'esprit qui touche. Donc, s'il n'est pas touché, je prie qu'il soit touché.
Mais, bon, je ne veux pas insister, mais dans l'Apocalypse, la dernière église, il dit « Je préfère que vous soyez soit froid ou chaud. » Froid ou chaud.
Oui.
Donc, c'est clair. Le tiède, bon, on oublie, là.
Oui, mais ça ne doit pas nous amener à forcer.
Non, mais on ne parle pas de nous, on ne parle pas de nous, mais je fais juste dire ce que la Bible dit.
Oui, oui, maintenant, après, on peut débattre sur les tièdes. Hein. Bon. Ça peut être autre chose aussi, donc mais ça va. Mais là, nous voyons que c'est lié à la conception du péché. Comment chacun conçoit le péché. Donc, quand on comprend bien que le péché le plus petit nous condamnait sérieusement, on devient un homme différent. On devient immensément reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Et ça change notre vie. Voilà, c'est ça quoi. Luc 23, 39. Non, on avait dit, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà encore un exemple de salut qui nous définit aussi, qui nous donne des éléments sur le message de l'Évangile. Alors nous avons deux voleurs. Il y a un qui est dans le système des bénédictions, le système dont on a parlé, que moi j'ai vécu dans les années 90, peut-être ça a commencé avant, mais ça a fait fureur dans les années 90. Prier pour les gens, ils sont bénis, ils vont voir la puissance de Dieu, ils vont voir les miracles de Dieu, c'est ça qui va les amener à venir à Dieu. Et c'est ce que ce voleur-là est en train de dire. Il dit, mais oui, mais si tu veux qu'on te suive, sauve-nous. Prouve que tu es Dieu, sauve-nous. Et donc c'est ça, cet évangile des années 90, démontrer la puissance de Dieu et les gens suivront. Nous, il nous arrivait même d'avoir la conception suivante, trouver une occasion pour prier pour quelqu'un, même s'il n'est pas à 100% chaud pour venir à Jésus. On comptait sur le fait qu'en lui imposant les mains, les démons qui sont en lui vont le faire tomber. Et là, il va être humilié, il va se sentir sale et il va vouloir le salut. Il va constater qu'il a des démons, donc, et puis là, il va vouloir du salut. Vous voyez, tellement on est dans la logique, montre-moi ta puissance et je te suis. Ce n'est pas ça l'évangile. Et là, c'est ce que réclame, c'est ce que réclame ce voleur. Il dit, mais montre-nous ta puissance et on te suit. Voilà. Sauve-toi, sauve-nous. Et bien là, on croira. Hein, là, on croira. Le deuxième nous donne la vraie définition des choses. Il dit, non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est notre sort personnel. Voilà. Le problème, c'est notre sort personnel. Parce que, bien aimé, nous allons être confrontés à ce genre de choses où, dans la famille, tu es peut-être le plus pauvre. Et à cause de ça, tu dis, mais Seigneur, donne-moi l'argent, parce que là, si je leur parle de l'évangile, ils vont dire, moi-même, je suis pauvre. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça. On va chercher une force apparente qui va démontrer que Dieu est avec nous. C'est là qu'on a le courage de parler de lui. Ah non, les amis de Daniel, c'est pendant qu'on allait les jeter dans le feu qu'ils ont dit, nous on croit en Dieu, en l'Éternel. Jetez-nous dans le feu si vous voulez. Donc ils n'ont pas, pour proclamer leur foi, attendu qu'il y ait un miracle. Ils l'ont proclamé avant. Daniel a proclamé avant d'aller dans la fosse au lion. Il a dit, je ne changerai pas, je prierai toujours mon Dieu. C'est avant. Donc beaucoup aujourd'hui veulent une sorte de puissance de miracle afin que les gens croient. Non. Donc là, c'est ce que réclament justement les gens. Les gens réclament ça, mais ils ne vont pas croire. C'est des commerçants, c'est des mercantiles. Ils ne vont pas croire, ils veulent juste prendre la puissance de Dieu et rester ce qu'ils sont. Ça nous ramène au véritable évangile. Le véritable évangile, c'est l'homme qui prend conscience de son sort. Il prend conscience du péché. Il prend conscience de ses erreurs. Ne traitez pas longtemps dans les choses de Dieu avec des gens qui ne prennent pas conscience de leurs erreurs. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir l'évangile. Là, on a deux personnes, il y a un qui n'est pas conscient de ses erreurs, il veut juste que Jésus montre sa puissance. Oui.
Oui, même le fait que la personne ne soit pas forcément consciente de ses erreurs, est-ce que appuyer sur la thèse de toute façon, nous sommes descendants d'Adam et Ève qui, eux, avaient le péché, donc de toute façon, on est pécheur, donc la sentence pour celui qui meurt dans le péché, c'est l'enfer. Est-ce que c'est ça limite la conversion de s'appuyer là-dessus?
Non, on s'appuie là-dessus. Moi, je pense qu'il faut rajouter quand même un élément très important. Parce que on va, dans la troisième phase, nous parlerons des paroles contraires qu'on reçoit quand nous présentons l'évangile. Nous allons essayer de répondre à toutes les oppositions verbales concernant l'évangile. Donc, on va en parler. Mais j'ai l'habitude de dire, oui, nous avons hérité du péché d'Adam. Cela se concrétise par la mort. Car celui qui est parfait ne meurt pas. Donc si tu meurs, c'est qu'il y a quelque chose qui se dégrade en toi. Si nous vieillissons, nous tombons malades, donc nous avons des choses anormales qui sont négatives. Donc c'est la démonstration qu'on a le péché. Donc celui qui est parfait ne peut pas mourir, ne peut pas vieillir. Donc on vieillit parce qu'il y a quelque chose qui se dégrade en nous. Donc on a le péché. Donc cela éclaire que voilà, tout celui qui se dégrade, ben il a le péché. Mais non, si quelqu'un malgré cela ne veut pas toujours croire, ça c'est l'affaire du Saint-Esprit. Nous laissons tout ça entre les mains de Dieu. Donc l'évangile, c'est la prise de conscience des erreurs d'un homme. C'est ça qui doit être notre souhait. Bien-aimé, notre souhait ne doit pas être... on a fait l'appel au salut, il y a 160 personnes qui ont levé la main. Bon, c'est bien, mais si quelqu'un n'a pas pris conscience de ses erreurs, c'est ça, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien parce que le salut est là pour les gens qui prennent conscience de leurs erreurs. Voilà. Qui prennent conscience de leur sort. Qui prennent conscience que, du fait que c'est quand même triste de mourir, quoi. C'est quand même triste de mourir. C'est quand même triste de tomber malade, de vieillir. C'est quand même triste ce monde. Ils prennent conscience de ça. Le salut est pour eux. Des gens qui réalisent que ce monde n'est pas un bon monde. Voilà. Avec eux, ils compris quoi. C'est important. Et cet homme le dit. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Donc cet homme prend conscience qu'il a perdu. Voilà. Qu'il a perdu et qu'il est perdu. Donc, il est perdu. Mais il a aussi perdu parce qu'il y a des perdus qui veulent prouver qu'ils ont gagné. On a dit, je ne sais pas quel jour, Hitler depuis 1942 était conscient qu'il allait perdre la guerre. Il savait qu'il allait perdre, mais voulait quand même gagner. Voilà, donc il y a des gens qui sentent qu'ils sont perdus, mais ils veulent quand même gagner. Et cet homme, lui, il avait conscience que non seulement qu'il était perdu, qu'il avait aussi perdu parce qu'il se retrouve à la croix. Vous savez, il y a des gens, des bandits, des gens comme les Jacques Mesrine, donc l'ennemi public numéro un, dans les années 70 en France. Donc il voulait se moquer de la police, se moquer de toute la France, tuer des gens, faire des braquages. Quelqu'un qui va braquer un casino, je crois, qui était à côté de la gendarmerie, carrément, d'un poste de police. Donc c'est, voilà, mais il a fini par se faire tuer. Voilà. Il a fini par se faire attraper. Donc, s'il y a des perdus, il sait qu'il est perdu, mais il veut quand même gagner. Mais cet homme, lui, il était conscient qu'il était perdu, mais qu'il avait perdu aussi, dans sa lutte, il avait échoué. Voilà. Donc, il dit, nous, regarde notre sort. Regarde comment ça finit. On est à la croix. On a beau dire qu'on est des indépendantistes, des zélotes, des bandits, mais on est à la croix. On a échoué. Reconnais. Donc c'est très important, bien-aimé, de viser ça. De viser ça. Que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans notre cœur. Viser que quelqu'un reconnaisse qu'il a échoué. C'est comme ça que la porte du salut s'ouvre. Et cet homme a reconnu. Et nous voyons que instantanément, il est sauvé. Donc quand il reconnaît, il dit que c'est pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Les gens peuvent tout dire sur Dieu, mais eux-mêmes sont-ils parfaits? Eux-mêmes sont-ils bons? Qu'ils regardent leur propre sort. Et Dieu, nous ne le voyons pas. Mais au moins, on se voit soi-même. Pour voir qu'on échoue, pour voir qu'on tombe malade, pour voir qu'on vieillit, on se voit soi-même. Mais regarde au moins toi-même pour comprendre qu'il y a un problème, tu as échoué. C'est ce que ce passage, cet homme-là nous enseigne. Il dit, nous, verset 41, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et quand on reconnaît ses propres torts, on peut maintenant arriver à voir que les bons côtés des autres et surtout les bons, voir que Dieu est irréprochable. Donc ça va devenir clair à nos yeux que Dieu est irréprochable. Mais au début, ça ne l'est pas parce qu'on ne voit pas notre propre sort. Et ça a été clair. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Automatiquement, Dieu nous éclaire sur ce qu'il est, sur le salut qu'il peut nous donner, nous apporter. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, nous prenons Luc 15 pour finir avec Luc et nous clôturerons totalement avec Jean. Luc 15. Alors, Luc 15, pour beaucoup, c'est la plus grande prédication de salut de l'Évangile. Luc 15, à partir du verset 11. Mais un petit avant-goût pour voir la soif de salut de Dieu. On commence le verset 8. Verset plutôt 3. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à sa maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voilà. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Amen. Voilà ce que nous voulons apprendre en premier dans le passage que nous allons lire après ceci, la repentance. Ça finit toujours par repentance. Dans le ciel, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. C'est ça, ça finit ces deux paraboles par ça. Et nous prenons la troisième, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Le commentaire qui suit ne nous intéresse pas trop pour aujourd'hui, mais on va le citer parce qu'on veut encore montrer que c'est choquant le salut. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Le papa dit, ton frère était mort.
Alors on comprend la joie de Dieu de sauver une âme. Il dit que mais pour Dieu, une âme qui n'a pas, qui est dans le péché, c'est mort. C'est un homme mort. Quand la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne s'est convertie, et il dit à son fils, ton frère était mort. C'était sans espoir, perdu. Mais comment il revient à la vie, tu veux qu'on ne soit pas dans la joie? Alors, de notre côté aussi, bien-aimé, on était mort. Vous savez, toutes sortes de raisonnements qu'on avait, c'est des raisonnements qui nous amenaient à la mort. Qui nous amenaient à la mort? Vous savez, beaucoup ont perdu la vie pour des entêtements. Quelqu'un vient et te dépasse. Toi, si tu veux le dépasser, il te redépasse. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu te dis, bon, il n'a qu'à gagner la course, je continue ma route. Mais quand tu n'es pas dans le Seigneur, c'est des trucs qui deviennent importants alors que ce n'est même pas important. Et en voulant encore le redépasser, accident, tu meurs. Une petite colère. Donc, même quand les gens vont, admettons que tu survis, mais avec les deux jambes cassées, mais les gens, quand ils vont apprendre, ils vont dire, oh, mon ami, juste parce qu'on t'a dépassé. Mais voilà, on comprend comment aujourd'hui nous étions morts. Parce qu'on avait des raisonnements qui étaient insensés. Insensés. On était morts parce qu'on allait en enfer. C'est une réalité. Bien-aimés, souvenons-nous du mardi passé et de l'autre encore. On a bien insisté sur le fait que le salut allait ensemble avec le jugement. Toujours. Donc, quelqu'un qui loupe le salut est dans le jugement. Et donc, quand on n'était pas dans le Seigneur, on était sous dans le jugement. Donc, on allait tout droit en enfer. Il dit, mais ton fils était mort. Et ton frère était mort. C'est ça l'évangile. Ceux qui sont dans le péché sont morts. Quoique en apparence vivants. Mais ce n'est que la respiration. Mais leur péché va les amener à la mort. Non seulement dans la difficulté terrestre, mais aussi dans le feu éternel. Alors nous revenons sur le message de l'évangile. Un homme avait deux fils. Il y a un fils qui demande son héritage, qui demande sa liberté. C'est ça le message de l'évangile. L'homme veut vivre comme ce qu'Adam avait décidé, comme Dieu, c'est-à-dire avec l'autorité de s'autodéterminer. Donc il veut lui-même s'autodéterminer, être son chef. Il ne se contente pas d'avoir des pouvoirs sur l'univers, sur la création, mais il veut être son propre chef. C'est ce qu'a voulu ce fils. Parce que ce fils avait des prérogatives, il avait des pouvoirs lié à son statut de fils d'un grand homme, mais il a trouvé qu'il dépendait quand même à un certain niveau de son père. Il fallait sortir de cette dépendance-là. C'est ça le péché de l'homme, c'est ça le péché d'Adam. C'est pourquoi ce message, il est complet, Luc 15, 11, la parabole du fils perdu. C'est complet. L'homme a voulu son indépendance. Et Dieu... Et ce père-là a fini par lâcher, il dit, bon, vas-y. Mais en lâchant, il continuait toujours à aimer la personne. Et il a laissé l'homme faire ce qu'il veut. Un évangéliste avait dit un jour, parfois on perd du temps sur des gens parce qu'en réalité, ils ne sont pas fatigués. Puisque le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, est chargé. Donc l'homme a besoin d'être fatigué pour revenir à Dieu. Il doit échouer. Il doit échouer. Et donc comprenons cette dimension-là. Il doit échouer. Et ce fils-là a échoué dans sa quête d'indépendance. Il s'est fait avoir. Et il a fini par manger moins bien que les cochons. Hier encore, je lisais une histoire sur Jean-Luc Delarue et dit vraiment combien il était devenu arrogant. C'est quelqu'un, le cuisinier qui met des lunettes bizarres là, qui en parlait. Combien il était devenu arrogant et le cuisinier de dire vraiment s'il faut pour devenir célèbre, faut passer par de tels chemins. Tel chemin, je préfère rester anonyme. Parce qu'il arrive chez les gens, il ne dit même pas bonjour, il donne des instructions, faites-moi des œufs au plat. Il demande au propriétaire, il demande au cuisinier, il demande à celui qui devait interviewer, allez, est-ce que tu as le vin que tu aimes le plus, allez, serre-moi, sans dire bonjour. Il dit, mais quand nous voyons comment cet homme-là a fini, esclave de la cocaïne, l'orgueil l'a amené à être esclave de la cocaïne, il en est mort. Donc c'est comme ça que Dieu voit les humains. Ils veulent leur indépendance, ils veulent l'arrogance, ils veulent être leur propre chef. Alors vas-y. Mais Dieu continue à aimer. Et nous avions appris que une aide-soignante chrétienne avait approché Jean-Luc Delarue avant qu'il meure. Mais après, avec l'entourage, finalement, le monsieur a résisté, mais elle lui a vraiment présenté l'évangile clairement. Je crois que c'était en Suisse. Clairement. Mais il a, je crois, eu le discours du voleur à la croix. Mais oui, mais qu'il me sauve. Ah oui, mais donc, poser des conditions à Dieu alors que c'est toi qui te perds. Quoi. Voilà. C'est ça la réalité. Mais c'est ce qu'a vécu ce fils-là. C'est la descente, comme on dit en français, la descente aux enfers. Mais à un moment donné, il y a prise de conscience. Voilà ce que nous apprenons de ce passage. Il y a la prise de conscience. Maintenant, c'est un élément que nous n'avons pas encore introduit dans tous les passages qu'on a lus, c'est le Saint-Esprit. À un moment donné, le Saint-Esprit va faire prendre conscience. En fait, le Saint-Esprit va finir par vaincre dans la lutte de prise de conscience pour que la personne prenne conscience de son état. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que notre Seigneur explique dans Jean 16, verset 8. Le Saint-Esprit viendra convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, à un moment donné, c'est que nous savons que c'est le Saint-Esprit, les humains vont dire prise de conscience. L'homme cède, il capitule, il reconnaît son erreur. Ce garçon reconnaît, mais il ne se limite pas à reconnaître. Parce qu'il y a des gens qui parfois reconnaissent, mais ça va s'arrêter là. Ils reconnaissent, mais la honte, l'orgueil, l'esprit d'avoir toujours raison, le maintient toujours distant. Et lui, il reconnaît, il dit non. Je ne peux pas rester dans cet état-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à vivre moins bien qu'un cochon. Je ne peux pas. Bien-aimé, à un moment donné, il faut reconnaître, bien-aimé, le monde, on ne va pas répéter les prédications qu'on a déjà faites, mais le monde ne nous apporte rien de sûr, d'assuré, de parfait. À un moment donné, il faut regarder tout ce qu'on vit dans le monde et dire non, ce n'est pas le bon endroit. Et tu regardes à ton corps, tu dis, ah non, ça, ce n'est pas le bon corps. Essaye de courir 100 mètres pendant, de faire 2000 mètres à la vitesse de 10 mètres par seconde, même 15 mètres par seconde. C'est là que tu vas comprendre, ah, ça, ce n'est pas le bon corps. Ce n'est pas le bon corps. Donc, il faut se rendre compte. Parfois, le matin, tu te réveilles, un bouton par là. Comprends que là, ce n'est pas le bon corps. D'où vient ce bouton-là au visage? Ce n'est pas le bon corps. Fatigue-toi de ça. C'est bon, on espère que le Saint-Esprit va te fatiguer. Tu te dis, non, ce n'est pas le bon corps. Il y a des médicaments, quand tu prends, tu veux manger un bon plat, ça n'a plus de goût. Mais ce n'est pas... c'est pas le bon endroit. Nous ne sommes pas au bon endroit. Dieu nous a préparé un endroit au ciel, la nouvelle Jérusalem. Et ce fils-là se dit, mais non, je ne suis pas au bon endroit. Je suis en train de manger les histoires de cochons, les restes des cochons. Je ne suis pas au bon endroit. Je suis sale. Il n'y a pas de vêtements. Alors que là où se trouve mon père, bien-aimé, dites, bien-aimé, je voudrais parler à quelques têtus qui sont encore là à ne pas accepter Jésus. Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal? Jésus ne fait que vous promettre la paix, la joie, le salut au ciel. Il a donné sa vie pour vous. Pourquoi tu peux refuser quelqu'un qui... C'est ce que ce garçon-là, il se dit, mais chez mon père, même le plus petit ouvrier, il mange mieux que moi. Moi, je commence à manger comme les cochons. Qu'est-ce que tu espères que ce monde va te donner? Regarde Mohamed Ali, regarde tous ces gens-là, comment ils ont fini. Jean-Luc Delarue, il avait tout. À un moment donné, il faut se dire, mais non, c'est vrai qu'on n'est pas au bon endroit. C'est vrai qu'on n'a pas le bon corps. Maintenant, quand tu lis les évangiles, on te promet un nouveau corps. On te promet un endroit où tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Un endroit où tu seras tout le temps protégé, où tu vivras, le mal ne te tentera même plus. La nouvelle Jérusalem. Un jour, pendant qu'on était parti au concert près de Lille, on a lu avec les sœurs dans la voiture le passage sur la Nouvelle Jérusalem. Je leur ai parlé des pierres précieuses qui étaient dans la... Vous savez, la Nouvelle Jérusalem, la fondation, c'est des pierres précieuses. Est-ce que vous imaginez une pierre... Et la porte, c'est une grosse perle. Donc quand tu avances, déjà la porte sait que tu avances pour entrer, la porte s'ouvre. Ce n'est pas comme notre porte automatique. Tu dois t'approcher tout près. Non, là, la porte lit ta pensée que tu veux entrer. Ça s'ouvre tout seul. La porte en perle. Une grosse perle. Donc, on a lu le passage. Les sœurs ont dit, ah, on est pressé d'aller là-bas. Moi, je dis, ah, voilà. Vous voyez que vos bijoux, là, vos maquillages, c'est rien par rapport à la nouvelle Jérusalem où, hein, on va citer les pierres précieuses. Béryl. Il y a fondation Béryl. Améthyste. Aujourd'hui, va chez Google, au lieu de chercher Facebook sur Google, tape améthyste, tape topaze, tape béryl, jaspe. Donc, toute la muraille de Jérusalem, c'est en jaspe. Tape chrysoprase, chrysolite. Tout ça, c'est les fondations de la nouvelle Jérusalem. Mais comment tu peux refuser un endroit comme ça? Donc ce monsieur-là s'est dit, mais non, je vais aller chez mon père, je vais m'excuser. Je vais demander pardon. Et puis, s'il a pitié de moi, je suis sauvé. Mais ce qu'il avait négligé, c'est l'amour de son papa. Dieu nous aime. Jean 3,16. Il a tant aimé les hommes. Alors donc, quoi que tu aies fait, si tu entres dans l'état de ce garçon-là, le Seigneur est prêt à dire, reviens. Viens au Père qui t'appelle, oh reviens à la maison. Donc ce garçon-là s'est dit, je rentre chez moi. Et à distance, le papa le voit. Il court l'embrasser. Ça veut dire que le papa l'attendait toujours. C'est ça le message de l'évangile, bien-aimé. Et l'enfant s'est approché de son père, il s'est repenti. C'est pour nous dire, bien-aimés, c'est vrai, l'évangile est gratuit, le salut est gratuit, c'est par la foi. Mais sans la repentance, on n'entre pas dans le salut. C'est impossible. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut reconnaître ses erreurs. Et c'est ainsi qu'il entre dans la joie de son maître. On lui met un vêtement neuf. On lui remet l'anneau du chef au doigt. Et les gens sont surpris. Mais non, pourquoi être surpris? Dieu est content. Il était mort, il est revenu à la vie. C'est cela, bien-aimé. C'est ça, vous savez, quand vous êtes dans un tel évangile, vous êtes heureux. Les embêtements, vous ne vous en occupez même pas. Votre Père vous a accepté, c'est le plus important. C'est ça, bien-aimé. Prêchons le véritable évangile tel qu'il est présenté là. Très simple, l'homme reconnaît son sort, il reconnaît son état, il cherche son Père pour le sauver. Il cherche Dieu pour le sauver. C'est tout. Il se repent. Et Jean 3, pour clôturer, nous parle de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Parce que quand on donne le message de l'évangile, les gens pensent qu'on le donne seulement aux païens qui volent jour et nuit, qui tapent, qui fument. Non, on le donne à tout celui qui n'a pas vraiment fait la vraie rencontre avec le Seigneur. Il a beau être parfois dans une église, mais il n'a pas encore fait la vraie rencontre. Et il y eut un homme, Jean 3, d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Voilà. Le Seigneur dit, celui qui croit en lui, il le fait naître de nouveau. Il lui donne une nouvelle nature qui va être triomphante du monde. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir en lui. Parce que certains se disent, mais comment le changement d'un tel peut être possible? C'est possible parce que l'œuvre de l'Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et sans la nouvelle naissance, on n'est pas sauvé. Parce que Nicodème était un religieux, mais il n'était pas né de nouveau. Il connaissait à peu près Dieu, mais il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas livré sa vie entre les mains du Sauveur. Il ne s'est pas laissé transformer intégralement par le Sauveur, par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que nous devons présenter comme message de l'Évangile. Nous rappelons, avec Zachée, nous avons appris qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça a été clair. Et que c'est lui qui cherche, qui vient chercher. Donc ça doit, ce paramètre-là doit figurer dans notre message que nous portons aux gens et que nous avons dans notre cœur aussi. Avec la femme pécheresse, nous avons appris que tout le monde est débiteur. Et qu'il est tout le monde, personne n'est capable de payer ses dettes, sa dette de péché. Personne n'est capable. C'est par la grâce de Dieu. Et que le problème de péché doit être réglé. Dieu doit nous pardonner pour qu'on entre dans le salut. Et toujours avec cette dame, nous avons appris que le salut s'obtenait par la foi. Ta foi t'a sauvé, madame, c'est ce que Jésus lui a dit. Et au chapitre 23 de Luc, nous avons appris par l'ex-voleur, l'ex-bandit, que l'homme devrait s'intéresser sur son sort. Et nous devons amener les gens à s'intéresser sur leur sort et à reconnaître leur échec afin d'entrer dans le salut. Qu'ils reconnaissent leur échec. Et cet homme a reconnu son échec. Il a demandé le salut de Dieu. Il a été sauvé instantanément. Et dans Luc, au chapitre 15, nous avons appris qu'il faut se repentir. L'homme a cherché sa liberté, mais sa liberté l'a amené à l'échec. Donc c'est ce que nous devons présenter dans notre évangile. Dire aux gens, vous cherchez votre liberté, mais votre liberté vous amène à l'échec. Revenez à Dieu dans la sécurité, et pour la sécurité. Et dans ce passage, nous avons aperçu aussi l'amour de Dieu qui n'attend que le salut et qui n'attend que le retour de l'homme pour exprimer sa joie. Et nous avons vu aussi que l'homme, tant qu'il n'est pas fatigué, tant qu'il a encore des forces, il ne viendra pas à Dieu. Voilà, tant qu'il a encore une certaine force, ce n'est pas forcément la force physique, ça peut être l'argent. Voilà. Quelqu'un peut être alité, mais il signe quand même encore l'échec, donc il se croit fort. Mais l'homme doit être fatigué pour venir vraiment à Dieu. Donc laissons Dieu travailler et agir dans ce sens-là. Et ne nous étonnons pas des mauvais, des catastrophes plutôt, qui amènent toute une population à la tristesse, à la souffrance. Parfois, c'est des moyens qui peuvent amener au salut. Ne nous étonnons pas des bouleversements dans la vie des humains, parce que ces bouleversements peuvent les amener à la fatigue pour recevoir Dieu. Et puis, nous avons fini avec Jean qui nous parle de la nouvelle naissance. Nous devons expliquer à quiconque qui nous entoure, il faut naître de nouveau, il faut devenir une nouvelle personne en Jésus. Et cela est possible par le miracle du Saint-Esprit dans la vie de tout homme. C'est le Saint-Esprit qui convainc, qui fait prendre conscience aux gens qu'il faut lâcher prise et donner sa vie au Seigneur. Voilà. Entre parenthèses, nous avons parlé de la Nouvelle Jérusalem pour dire comment refuser, comme notre frère Paul dit, un si grand salut. À cause de quoi sur la terre? Voilà, à cause de quoi? Il n'y a aucune justification. Prions que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Oui.
C'est une question par rapport à ce que tu disais, la mode dans les années 90 de prier pour des miracles avant même que les gens soient convertis. Je suis complètement d'accord que l'évangile, c'est pas c'est la repentance beaucoup plus que les miracles, mais quand on lit les évangiles, on voit quand même que Jésus a fait des miracles même pour des gens inconvertis. Et je pense aux 10 lépreux par exemple. Donc, il n'y en a qu'un seul qui est revenu
au Seigneur. Tu as répondu toi-même après.
Donc, oui, on comprend qu'ils n'ont pas saisi le salut, mais Jésus a quand même continué à faire des miracles.
Oui, mais pas pour sauver. Là, nous parlons du salut. On ne parle pas de faire du bien aux hommes. Quand les gens disent qu'il faut prier pour les gens, qu'ils soient bénis pour être sauvés, pour venir se convertir, ils sont dans l'erreur totale. Donc, tu donnes toi-même l'exemple. Jésus a fait bien les miracles aux 10, mais un seul a été sauvé. Donc, ce n'est pas les miracles qui sauvent.
Oui, là, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Je pensais que tu disais que prier pour la guérison d'un inconverti, ce n'était pas une bonne chose.
Ah non, on a dit...
J'ai mal compris.
Voilà, okay. On ne peut pas sauver par les miracles. Donc, vouloir une puissance, comme le voleur réclamait, « Sauve-nous !» Donc, c'est ça qu'il réclamait. Non, ce n'est pas comme ça. L'homme doit prendre conscience de son sort. C'est ça le salut. Ce n'est pas en lui faisant du bien qu'on le sauve. Le salut vient de la repentance quand l'homme prend conscience de son sort.
Ok.
Seigneur, merci de nous aider à prêcher le véritable évangile au nom de Jésus. L'évangile qui amène l'homme à rester à sa place et toi à ta place, qui amène l'homme à prendre conscience de son sort, à réaliser qu'il est perdu et qu'il a perdu. Aide-nous, Seigneur, à nous intéresser à l'évangile véritable qui nous est traduit par l'exemple du voleur à la croix, de la femme pécheresse, de la brebis perdue, du fils perdu, de Nicodème. Seigneur, que nous ne puissions pas changer l'évangile, que nous puissions présenter l'évangile qui sauve, qui amène les gens à reconnaître qu'ils sont fatigués, qu'ils ont perdu, qu'ils ont des péchés et qu'ils ont à se repentir, Seigneur. Je sais que nous sommes tentés à cause de la logique du nombre. de vouloir convaincre par notre intelligence, convaincre en faisant le bien. Mais Seigneur, nous voulons faire le bien parce que tu aimes l'humanité, parce que tu aimes tout le monde. Mais nous comptons sur ton esprit pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. À toi la gloire, la louange pour tout ce que tu vas faire en nous utilisant à apporter le vrai message de sorte que nous n'ayons pas des conversions tronquées, des conversions falsifiées, mais de vraies nouvelles naissances, comme pour cette femme qui a beaucoup aimé parce qu'elle avait réalisé que ses nombreux péchés étaient pardonnés. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.